L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir.
Antécédents judiciaires, vous avez déjà été
condamné.
Vous avez été compris, il fonctionne bien.
Entre les parents de ces
policiers-là, ils sont assermentés, monsieur.
Si c'est la dernière fois que vous passez devant un tribunal correctionnel, on se retrouve libre.
Bonjour, vous êtes bien sur Canal Sud 92.2 et vous écoutez Tapage, une émission sur les violences judiciaires. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va écouter Clément et Nord nous raconter une audience correctionnelle de décembre 2025, au cours de laquelle ont comparu deux surveillants pénitentiaires de la prison de Seyss pour des violences commises sur des détenus. Mais on va d'abord entendre un entretien avec Anna Piche. Anna Piche, elle est autrice et dessinatrice de bande dessinée, elle est aussi dessinatrice d'audience. Et elle est venue à la librairie Terra Nova présenter son nouveau livre « Sans foi ni loi, la police face à la justice ». Dans ce livre, elle chronique 15 procès de policiers.
Salut Anna, du coup c'est ton troisième livre, t'as fait un premier livre qui est un recueil de comparution immédiate et un deuxième livre sur la question de la garde à vue. Pour ce livre-là, t'es revenu aux chroniques d'audience, donc tu chroniques une quinzaine d'affaires qui ont pour spécificité le fait que le prévenu, c'est-à-dire l'accusé, est un policier. Est-ce que, première question, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que t'as voulu faire ça, pourquoi ce choix ?
Ok, bah merci d'être aussi nombreuses ici. Pourquoi les procès de policiers ? Parce que je suis allée à quelques audiences à Paris où j'avais entendu parler qu'il y avait des audiences spécifiques pour ce contentieux-là. Et effectivement, comme il y avait quand même pas mal d'affaires qui revenaient, ils ont fini par se donner des jours spéciaux où la 10e chambre à Paris et la 14e à Bobigny se réunissaient pour traiter les affaires d'infractions commises par la police, que ce soit dans le cadre privé ou au sein de, enfin, lors de leur fonction. Et donc, un après-midi par mois se réunissait donc cette chambre où, du coup, on voyait des policiers passer à la barre se succéder. Et c'était très intéressant de voir l'étonnement, enfin, les stratégies de défense et puis l'étonnement, en fait, de se retrouver convoqué à une audience et avec une... Enfin, en fait, en comparaison des observations que je faisais en comparution immédiate ou en correctionnelle ou de tout autre justiciable, on va dire, normal, eux arrivaient avec une confiance aussi assez impressionnante en mâchant leur chewing-gum, en arrivant un peu comme des cow-boys, comme si finalement ils n'avaient rien à faire ici. Et en sachant... que en fait ils sont, enfin, le taux de classement sans suite des affaires de violence policière, il est quand même assez énorme, hein, je crois que ça c'est un peu assez proche du taux de classement sans suite des affaires de violence sexuelle, donc il y a quand même une certaine impunité, et donc ce nombre infime de prévenus ou d'accusés qui arrivent à la barre, c'est quand même enfin, c'est vraiment très minoritaire, donc c'est quand même qu'il y a des dossiers qui sont quand même assez solides, souvent qui se reposent sur des vidéos aussi, on le voit quand même, et ça c'est assez inquiétant dans le sens où ça veut dire que sans vidéo, ce serait peut-être même la base de poursuites engagées par le parquet. Donc voilà, peut-être je parle un peu longuement, mais c'est de là où est venue en fait l'idée d'y aller régulièrement, donc j'y allais souvent. Tous les mois et puis bah après avec les éditions Masso, on s'est dit que ça pouvait être aussi un sujet de chronique aussi parce que c'est un autre traitement judiciaire qui est différent et donc dans l'idée en tout cas d'analyser le fonctionnement de la justice, je pense qu'il y aurait plein d'autres bouquins à faire sur d'autres sujets, sur d'autres audiences, sur d'autres types d'affaires, mais donc je me suis un peu attardée sur cette question là et donc j'ai vu au-delà de ces chambres spéciales, je suis allée aussi à d'autres procès aussi pour différentes infractions à Paris, Bobigny, et puis à Rennes, il y a deux affaires aussi qui ont été jugées à Rennes dans ce livre-là. Moi, j'en avais vu à Nantes aussi, mais elles ne sont pas dans le recueil.
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en regardant la différence entre ce type d'audience avec ce type de prévenu, en regardant la différence avec les audiences normales, ça dit aussi des choses sur la justice, sur le fonctionnement de la justice. Ça dit notamment des choses, on va en parler assez longuement, j'imagine, sur le fonctionnement du parquet et ses liens structurels avec la police. Parce que s'il y a bien quelque chose qui est très très différent dans ce type d'audience, c'est l'attitude du parquet, c'est-à-dire de l'accusation vis-à-vis des accusés, quoi.
Ouais, c'est ça, le met aussi dans une position, à mon avis, très compliquée, parce que c'est vrai que j'avais pris le temps d'expliquer un peu plus longuement le fonctionnement de la procédure pénale dans la première BD, où j'avais bien schématisé pour qu'on puisse comprendre, parce que peut-être je parle peut-être de trucs un peu techniques aussi, mais en fait, la première porte d'entrée, on va dire, dans l'institution judiciaire, c'est le parquet. Je vais essayer de simplifier les choses, mais en gros, le parquet, c'est les procureurs, et les procureurs, en fait, ont une capacité de choix très importante, en fait, dans la chaîne pénale, puisque c'est eux qui vont être en contact direct avec les policiers, notamment dans le cas de savoir s'ils vont poursuivre une affaire, s'ils vont la classer sans suite, s'ils vont recourir à des alternatives aux poursuites. Et donc, c'est là où c'est à ce moment-là, à cette phase un peu cruciale quand même, qui est pourtant pas publique, puisque ça se joue au service de traitement en temps réel, donc ça, c'est dans des bureaux, ça se joue souvent sur la base d'appels téléphoniques entre la police et un OPJ et le parquet, enfin des substituts de procureurs qui vont décider en quelques secondes si ils vont poursuivre une affaire ou non. Donc, et ça va pas être public, et c'est pourtant une étape déterminante dans la procédure pénale. C'est ce qui va faire que certaines affaires vont être enterrées, ne vont jamais être poursuivies, ou il va pas avoir d'enquête dessus, et d'autres affaires pour le coup vont être poursuivies. C'est aussi c'est à cette même phase là, enfin en tout cas c'est ce même magistrats du parquet qui vont aussi pouvoir décider des déferments en comparution immédiate ou d'autres types de poursuites. Donc c'est une première étape très importante dans la différence de traitement judiciaire en fonction de certaines infractions et de certains justiciables aussi.
Et du coup, ce qui est marquant, c'est que les affaires qu'on voit là, ça veut dire que le parquet a décidé de poursuivre, a décidé qu'il y ait une audience. Et pourtant, le procureur à l'audience, qui n'est pas la même personne, mais qui appartient lui aussi au parquet, parfois défend assez vigoureusement les accusés, voire même, dans plusieurs cas que tu cites dans ton livre, peut demander la relaxe. Ce qui est une chose très étonnante à voir.
Ouais, ça peut arriver. Ça arrivait rarement quand même, les demandes de relax, parce que c'est vrai que pour arriver en audience publique, il faut que le dossier soit quand même assez solide. Et souvent, les affaires sont quand même assez accablantes. Mais par contre, effectivement, cette difficulté de reconnaître le caractère systémique des violences commises par la police, c'est ça le réel problème, quoi. Il y a vraiment une tentative de vouloir démontrer que c'est une brebis galeuse, enfin un truc anecdotique, d'individualiser en tout cas le problème, et effectivement de jamais mettre la hiérarchie policière en cause, en fait. Alors il y a parfois des affaires effectivement qui sont commises dans le cadre privé des policiers, mais il y a aussi des affaires dans le cadre de maintien de l'ordre, dans le cadre, on va dire, d'une organisation systémique de la police. Et du coup, il y a bien souvent des affaires où je me disais, mais en fait, c'est un peu une protection de dire, de tout rejeter la faute sur un prévenu ou un accusé. Mais finalement, est-ce qu'on peut aussi regarder la chaîne de responsabilité de toute la hiérarchie policière? Et ça, le parquet, ça le met trop en difficulté, parce que les deux fonctionnent vraiment ensemble, quoi.
Et comme chose qu'on entend dans le parquet, dans ta bande dessinée, il y a par exemple l'argument de la pomme pourrie. Moi j'ai la plus grande confiance dans la justice, c'est justement pour ça que je ne tolère pas une pomme pourrie dans le panier de pommes. Bizarre métaphore par ailleurs, mais enfin bon. Mais t'as aussi certains procs qui peuvent accuser les parties civiles, la victime, notamment dans le cas de violences commises pendant des manifestations. Donc là, dans l'affaire qui s'appelle « Ils sont venus m'enquiquiner », c'est une citation du prévenu, 45 jours d'interruption d'ITT. Donc coup de tonfa sur le poignet brisé pendant une manifestation, et c'est la proc elle-même qui met en cause la victime en disant « Mais de toute façon, qu'est-ce que vous faisiez là au contact de la barricade ?»
Ouais, il y a une tentative assez constante d'inverser la responsabilité, et de culpabilisation des victimes. C'est vraiment les mêmes mécanismes qu'on voit dans les affaires de violences sexuelles, c'est-à-dire inverser les responsabilités, culpabiliser la victime, des stratégies aussi de je sais pas comment on dit, on entend les prévenus se victimiser pendant des heures, c'est assez rageant même, parce qu'il y a des fois où c'est... toujours. C'est complètement déplacé, en fait. Enfin, et d'ailleurs, oui, j'en profite, tant que j'y pense. J'ai ramené... ça, c'est les originaux d'un procès début janvier à Nantes. Je peux vous les faire tourner. C'est les originaux, donc partez pas avec. En fait, c'est 5 jours de procès du CRS qui a tué Aboubacar Fofana, un jeune Nantais qui vivait dans un quartier de Nantes. Et il se fait tuer. C'est un peu une affaire similaire à celle de Naël. En fait, il a été tué lors d'un contrôle policier voilà, où il n'y avait rien qui se passait. Et le gars a fait feu, il lui a tiré dans le cou. Et donc, l'affaire a été jugée pendant une semaine à Nantes en cour criminelle. Et le gars était très, très confiant. Et en fait, il a menti éhontément pendant une semaine en contredisant même toutes les expertises balistiques, les experts légistes qui disaient que il ne pouvait pas tirer par accident. Et lui a toujours défendu l'accident, alors que tout, même les policiers en fait qui étaient avec lui, ont fini par dire bah non, ça ne tenait pas. Et donc, il a menti pendant une semaine et il a pris 7 ans avec mandat de dépôt, ce qui est une des premières fois une peine aussi importante pour quelqu'un qui n'avait même pas été placé en détention provisoire. Et je pense qu'il a fait appel. Voilà. Mais c'était pour vous raconter le contexte et comme ça vous permet de comprendre un peu mieux l'affaire. Mais...
Là, tu parles des peines. Et il y a une chose qui est frappante dans les chroniques de ton livre, c'est que les peines demandées et prononcées sont faibles par rapport à des affaires similaires où le prévenu ne serait pas un policier, alors même que le fait d'être un policier est une circonstance aggravante.
Ouais. Oui, c'est ça, c'est que c'est normalement ça aggrave la peine que ce soit commis par une personne dépositaire de l'autorité publique, et pour autant ça permet de justifier dans les propos qu'on entend au tribunal l'effet tunnel, la difficulté du travail policier, et puis ils sont confrontés à des insultes, et puis le travail est difficile, et donc alors même que c'est censé être une circonstance aggravante et pas atténuante, et y a une vraie effectivement, si on mettait ne serait-ce la moindre affaire d'une minime gravité avec un autre justiciable à la place, c'est difficile de faire ce genre de comparaison, mais parce que les affaires sont toujours différentes, mais je pense quand même une certaine légèreté dans les peines, en tout cas.
Par exemple, tu as cette affaire appelée, et c'est une citation encore, « On a percuté un mec, on l'a démonté, on l'a découpé ». Bon, c'est une citation, en fait, d'un policier de la Bravem qui avait oublié d'éteindre sa caméra piéton. Du coup, ils ont roulé sur un monsieur, et après, ils l'ont roué de coups, si je comprends bien.
Oui, alors je sais plus si ça s'est fait à peu près dans le même train de temps. C'était au moment de la... après une manif contre la réforme des retraites, je crois, en 2023. Là, il y a eu pas mal d'affaires l'année dernière qui ont été jugées de la Bravem. Je crois que c'était encore la Bravem, mais plusieurs policiers différents qui ont été... En tout cas, les procès sont tombés. Et effectivement, l'affaire, elle était hyper choquante. Et pareil, ils ont eu une stratégie non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et puis l'effet tunnel, et puis machin. Et puis, en fait, ils sont partis de la scène de violence. Et ils avaient gardé un des policiers avait gardé sa caméra piéton allumée. Et donc, on a entendu dans la salle d'audience les propos qui étaient mais d'une violence inouïe, où les gars étaient en train de rigoler, d'avoir percuté quelqu'un, d'avoir... je ne sais plus comment ils disaient, mais les mots sont hyper violents. Et donc...
Et on les entend aussi dire, à la terrasse du bar, j'étais un peu stressée, mais j'ai bien vérifié, personne ne nous a filmé. Bon, c'était ce qui prouve bien, par ailleurs, qu'ils s'inquiètent pas mal de cette histoire d'être filmé. Et je citais cette affaire pour la question des peines. Donc c'est très grave. J'ai pas noté ici le nombre d'ITT que la personne percutée a eu, mais qui était, dans mon souvenir, assez important. Ils ont été condamnés à 10 mois de sursis. Et 5 mois de sursis. 10 mois de sursis pour l'un, 5 mois de sursis pour les deux autres. Et pour aucun d'entre eux, me semble-t-il, aussi peut-être... J'allais dire l'interdiction d'exercer qui se pose aussi, parce que là on parle de peine, on est un peu frappé parfois que l'interdiction d'exercer soit aussi peu requise et aussi peu prononcée pour des faits qui semblent souvent très graves, quoi.
Ouais, ça c'est parce que c'est une peine que peut prononcer, je pense que c'est une peine complémentaire que peut prononcer le tribunal, c'est-à-dire de se prononcer sur est-ce que la personne peut continuer d'exercer une mission de ce type. Et ce qu'on voit, c'est que c'est quand même très rare, enfin moi je l'ai vu très rarement une interdiction définitive. plus souvent une interdiction pendant plusieurs années d'exercer sur la voie publique. Donc en fait, c'est parfois même des flics qui vont être un peu promus et qui vont passer dans les bureaux avec un meilleur salaire, ce qui va aussi leur permettre de continuer à cotiser pour leur retraite. C'est assez fou. Il y a eu plusieurs. J'ai oublié ce que je voulais dire, mais sur cette affaire-là, en fait, il y avait un des. C'est aussi le moment, comme en fait, on étudie aussi la personnalité des prévenus au moment de l'audience. Il s'avère qu'on regarde aussi s'il y a des procédures en cours. Et en fait, il s'avère qu'il y a eu plusieurs fois où en fait, les juges se rendaient compte que ces mêmes personnes étaient impliquées aussi dans d'autres affaires. Et dans cette affaire-là, ce n'était pas du tout une affaire dans le cadre du maintien de l'ordre. C'était un des policiers qui était poursuivi pour des violences sexuelles sur une mineure, enfin, ou atteinte sexuelle, je ne sais plus comment il le sait. Donc en fait, on apprend, et c'est aussi les audiences, c'est aussi des moments où on apprend des trucs qui ne sortiront pas ailleurs, quoi. Donc après, il n'a pas encore été jugé là-dessus. Mais,
L'interdiction d'exercer est rarement prononcée. Ça explique aussi pourquoi là, dans ton livre, on voit plusieurs affaires où les policiers qui comparaissent ont déjà été condamnés pour des violences contre des manifestants et manifestantes.
Ouais, bah là le procès là du CRS là il a eu lieu 7 ans presque 8 ans après la mort de Aboubacar Fofana, et en fait il a continué d'exercer pendant tout le temps de l'instruction, quoi. C'est-à-dire qu'il a pas il y a eu un contrôle judiciaire, mais il a continué à exercer pendant ces fonctions là il était parti à la retraite en 2024, donc en fait il arrive en procès et voilà, c'est bon, il est à la retraite, enfin il n'y a plus de risque sur ces émissions. Mais c'est très inquiétant, oui, parce que ce serait quand même le minimum à demander pour une personne dépositaire de l'autorité publique, quoi.
Autre infraction commise dans le cadre professionnel, c'est la consultation illégale de fichiers de police. Il y a plusieurs affaires qui parlent de ça dans ton livre, dont une assez frappante, dans laquelle le policier utilise les fichiers de police pour contacter une plaignante et lui envoyer des photos de lui torse nu, alors même que cette femme était venue dénoncer la veille des faits de viol.
Et ouais, 24 heures avant, enfin, c'était hyper choquant. Et là encore, victimisation du policier qui était pourtant très aguerri, qui avait une cinquantaine d'années, qui avait exercé. Je me demande s'il n'avait pas été à la DGSI aussi. Enfin, c'était pas le tout jeune flic de 19 ans, quoi. Et il trouvait encore une défense. Je sais plus, sa femme était malade.
Sa femme avait un cancer.
Voilà. Bon. Trouver le lien de causalité, tout est possible.
Il y a aussi dans les affaires là que tu chroniques des faits qui ne sont pas commis en service. Il y a des faits qui sont commis à la sortie d'un bar ou à la sortie de boîte de nuit. Donc par exemple, un groupe de 3 policiers qui tabassent à la sortie d'un bar un groupe de plusieurs personnes. Là, ce qui est assez frappant, c'est une des affaires où il parle de l'effet tunnel et de la légitime défense. Donc ça fait partie des éléments de langage qui sont constamment mobilisés pour leur défense, à la fois par les policiers et à la fois par les avocats. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cet effet tunnel ?
C'est une stratégie de défense que j'ai entendue quasiment dans tous les procès auxquels j'ai assisté. C'est un peu un élément de langage qui revient très régulièrement pour dire que dans le cadre de leur fonction, dans un état de stress, ils se seraient focalisés sur un point et donc ils n'en auraient pas vu l'ensemble des choses qui se passaient. Enfin, ils auraient mal appréhendé. En gros, c'est l'excuse pour avoir mal appréhendé la situation et du coup avoir pris une mauvaise décision, mais effet tunnel. Et donc c'est la défense qu'ils ont pu utiliser sur quand les flics ont chargé le cas Wilson à Nantes, tuant Steve et faisant chuter 13 ou 14 personnes dans la Loire à 4h du matin. Je sais pas si vous vous souvenez de cette affaire à Nantes le soir de la fête de la musique. Je me demande s'ils l'avaient pas utilisé aussi sur l'affaire de Castelin, du flic qui avait mutilé Théo. Enfin, on a quand même parfois du mal à essayer de saisir le sens, s'il y en a un. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au procès, je reviens sur le procès récent là, du CRS, c'est qu'il y a eu un expert légiste qui est venu à la barre, et donc là encore, les policiers parlaient de l'effet tunnel, alors même que c'était censé être un accident, donc on a un peu de mal à... Voilà, toute stratégie de défense est bonne à prendre. Après, parfois, il y a des logiques qui doivent se perdre. Et l'expert légiste a dit un truc très intéressant. Donc, il explique qu'effectivement, il définit l'effet tunnel comme effectivement étant dans un état de stress, le fait de se focaliser sur un point. Et il dit mais et il se retourne vers vers l'avocat de la défense et lui dit mais l'effet tunnel c'est pour les victimes, c'est pas pour les auteurs. Et donc, c'était la première fois que j'entendais ça, alors que ça faisait 2-3 ans que j'allais voir ce genre de procès. Et je me dis, mais oui, donc c'est vraiment... ils ont intégré cette victimisation au point d'en même prendre les éléments de langage qui devraient être ceux des victimes. En fait, je ne sais pas si ça peut se relier à l'effet de sidération ou comme un effet traumatique, mais c'est-à-dire qu'ils se sont même réappropriés les phénomènes que subissent leurs victimes, en fait.
Pour ce qui est de la légitime défense, là aussi c'est intéressant parce que les policiers la mobilisent presque systématiquement. Dans ton livre, tu parles de l'affaire où Théo a été mutilé, et là c'est un des exemples où les policiers évoquent la légitime défense. Le juge lui-même leur rappelle que ça peut pas s'appliquer dans ce genre de situation. Théo était à terre, menotté, maintenu par 4 policiers. Est-ce que tu peux nous rappeler quand est-ce que la légitime défense est censée s'appliquer ?
Alors, j'ai plus trop le texte en tête, mais en gros, il y a des conditions très strictes de, il faut que ce soit nécessaire, il faut que ce soit proportionné. En gros, il faut que la réponse violente, si on en a une, il faut qu'elle soit proportionnée à l'attaque qu'on subit et nécessaire et immédiate. C'est-à-dire que ça peut pas être après, sinon ce serait, en tout cas, il faut vraiment que ce soit dans l'immédiateté, que ce soit lié à une attaque et que ce soit à la hauteur de cette attaque. Enfin, du coup, effectivement, dans plein de situations où la légitime défense est invoquée, les conditions matérielles ne sont pas du tout remplies. Et pour autant, là encore, effectivement, le parquet a quand même beaucoup de mal à reconnaître la violence de la police. Et sur l'affaire, effectivement, de Castelin, qui est ce flic qui a été accusé de viol avec acte de barbarie. Hein. Je ne sais plus exactement la qualification. Non, ou acte de... Je ne sais plus si c'était acte de torture qui avait été... Moi, je ne sais même plus. Mais effectivement, il y avait un acte de viol qui était reproché et le parquet refusait d'entendre ce mot, en fait. Alors effectivement, pour la victime, c'était effectivement aussi dur de l'entendre. Matériellement, en fait, c'était la notion juridique qui était adéquate. Et en fait, il refusait catégoriquement dans les réquisitions. Et pourtant, c'était un proc assez connu à Bobigny pour être spécialiste en gros des violences policières. Et là, par contre, surtout pas. Ça pouvait pas être un viol qu'on commis parce qu'il y avait pas d'intention sexuelle. Comme si et là, en plus, l'enquête de disclose, elle est sur les violences sexuelles policières. Elle permet aussi de raconter ça. Mais en fait, c'est l'histoire de toutes les violences sexuelles. Elle repose plus sur c'est un acte de violence et un acte de domination et de pure barbarie plus qu'une intention sexuelle. Donc c'est de la mauvaise foi de refuser de reconnaître que la police utilise la violence pour terroriser et la violence sexuelle pour terroriser, de la même manière que le viol et les violences sexuelles sont aussi utilisées en terrain de guerre pour terroriser des gens, et elles le sont au quotidien dans nos vies aussi. Et elles le sont pas rarement, enfin elles sont plus pour répandre la terreur, quoi. Et donc c'est aussi une mauvaise foi, en tout cas, du parquet.
Autre exemple de mauvaise foi du parquet, une affaire, encore une fois, contre un manifestant et une manifestante, où il y a eu des phrases racistes et sexistes et des menaces qui ont été prononcées. Ça, le parquet a refusé catégoriquement de reconnaître que c'était une menace de violence sexuelle. Alors que la phrase était quand même « Viens, cette nuit, je vais venir me coucher avec toi, le premier qui bande va enculer l'autre ». C'est quand même un genre de menace, malgré tout. Et ça, pour le parquet, c'était inenvisageable de considérer...
Oui, c'était encore une affaire avec la Bravem, oui. Ouais.
La parquetière a même dit que c'était une conversation, que c'était un échange entre les deux.
Tout à fait, tout à fait. Ouais. Mais comme si... Enfin, oui, c'est lunaire.
Et c'est la même affaire, en fait, où les policiers ont dit « Pour toi, ce sera 6 mois de prison et OQTF ». Et là aussi, ils ont refusé de concevoir que c'était une phrase raciste.
Ouais. Non, c'était... je sais plus ce qu'avait dit le flic. Il s'intéressait à son histoire, je sais plus. Enfin, c'est... Oui, parce qu'il lui avait demandé comment il avait traversé la Méditerranée. Enfin, c'était hallucinant. Et, mais il y a aussi cette difficulté de reconnaître toutes les circonstances aggravantes de l'ordre de discrimination systémique, quoi. Et donc de reconnaître que la police, elle est raciste, de reconnaître qu'elle est sexiste. Enfin, c'est... et qu'elle commet des crimes, c'est en tout cas, il faut toujours trouver une justification. Et donc oui, les débats judiciaires sont quand même parfois assez hallucinants, quoi.
Comme tu nous as expliqué, il y a pas mal de cas où le parquet décide de classer sans suite, notamment quand il n'y a pas de vidéo et pas de témoin. Mais il y a plusieurs exemples, il y a deux exemples, il me semble, dans ton livre, où, en fait, on voit qu'il y a une manière de contraindre, en quelque sorte, l'audience. Est-ce que tu peux... Ça s'appelle une
citation directe.
Une citation directe avec témoin, je ne sais plus, je suis désolée. Ah, voilà, ça n'a rien à voir, c'est aucun mot n'est bon. C'est une plainte avec constitution de partie civile. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ?
Ouais, alors, en fait... nous, notre système judiciaire, il est un peu... on a donc le parquet, je vous racontais, qui a ce pouvoir quand même très important de choisir de la suite d'une affaire. Et lui, en fait, il est considéré comme représentant la société. Donc, il va prendre une décision en représentant la société. Donc, apparemment, certaines affaires intéressent plus la société que d'autres. Une fois que vous avez, par exemple, dans le cas où l'affaire commence, par exemple, sur un dépôt de plainte et que le parquet décide de poursuivre, bah, même si vous retirez votre plainte ou que vous ne voulez plus continuer, en fait, c'est un peu... cela ne vous appartient plus en tant que victime. C'est-à-dire que c'est la société qui a pris... donc, c'est l'action publique, on va dire. C'est le procureur qui poursuit, pas en votre nom, mais au nom de la société. Et du coup, c'est aussi pour ça que parfois, on dit je retire ma plainte. Mais non, une fois que le parquet a décidé de poursuivre, il poursuit du coup au nom de la société. S'il est classé sans suite aussi, vous vous retrouvez... c'est pas l'État, c'est pas la société qui va pouvoir mettre les moyens de poursuivre à votre place. Et donc, il y a effectivement deux procédures particulières qui vont permettre en fait, de poursuivre quelqu'un en notre propre nom. Donc, soit une plainte avec constitution partie civile, soit une citation directe. Et alors, avec aussi certaines contraintes, parce que là, du coup, c'est plus la société avec le fric public qui va poursuivre à votre place. Mais là, du coup, va falloir avoir un avocat, va falloir... payer une espèce de caution. Enfin, c'est aussi des risques pour la victime. Et puis, c'est des risques aussi que si ça ne va pas au bout, ce sera en votre nom aussi qu'on pourra vous poursuivre en diffamation. Enfin, donc, c'est quand même une procédure qui est beaucoup plus risquée que si le parquet faisait son travail. Enfin, voilà. Donc, ce serait quand même normalement à la justice de faire son travail en tant que service public. Mais là, en l'occurrence, ça peut quand même être un moyen de passer outre, mais il faut quand même avoir un dossier très très solide pour le coup. Mais ça arrive souvent, et notamment en matière de violence sexuelle aussi, d'avoir recours, et heureusement qu'il y a ces recours-là. Et effectivement, Ari Halimi, qui est un avocat très célèbre et donc qui fait beaucoup de grosses affaires assez médiatisées, plusieurs fois dans le livre, et puis que je l'ai vu aussi plusieurs fois au tribunal, il fait ces procédures-là avec des victimes de violences policières, et donc j'imagine qu'il ne doit pas les faire payer beaucoup pour pouvoir, parce qu'il défend aussi plus largement, il lutte aussi plus largement contre les violences de la police, donc ça s'inscrit aussi dans une démarche militante. Mais parfois, en fait, arrive à l'audience aussi, le parquet n'a pas fait son travail ou a refusé de le faire, et donc la partie civile, en tant que victime, va apporter le dossier. Et effectivement, en fait, dans l'affaire que tu racontais de la Bravem avec les propos racistes et les menaces de viol, le parquet avait décidé de classer. Et c'est Ari Halimi et la victime qui ont décidé de non, en fait, on y va, quoi.
Et je crois que c'est une des affaires où le parquet a demandé la relax aussi, me semble. Il me semble que oui. Parce que pas de vidéo, pas de témoin. Et là, vraiment, pas de vidéo, pas de témoin face à des policiers. Bon.
Oui, c'est, on dirait que c'est presque un prérequis, en fait, sauf qu'en fait, à aucun moment dans le code pénal, c'est marqué que pour déposer plainte contre un policier, il faut avoir une vidéo, en fait. Et heureusement que non. Enfin, et dans plein d'autres cas d'infraction pénale, en fait, s'il fallait une vidéo pour pouvoir prouver des violences, en sachant que toutes les violences qui se commettent dans le cadre privé, où il n'y a pas de vidéo, où y a, enfin, ce serait impossible. Donc, de commencer à exiger ça, c'est très dangereux, quoi.
Et du coup, ça fait aussi que, vu qu'il faut ça, ça veut dire, c'est aussi une des raisons pour lesquelles le fait de se voir filmer à l'occasion déclenche chez les policiers beaucoup de violence. Il y a une affaire que tu racontes là, où le monsieur qui s'est fait briser le poignet et qui a eu 45 jours d'ITT, c'est parce qu'il était en train de filmer un policier.
Et ouais, et puis il exigeait d'avoir son RIO, donc son numéro d'identification. Et le flic, qui n'était pas un tout jeune flic aussi, hein, qui avait peut-être 20 ans de carrière, qui trouvait que c'était... je ne sais plus comment il avait dit ça. Il se sentait agressé par le fait qu'on lui demande son numéro d'identification, qui est censé être obligatoire. Il porte un uniforme, il agit dans le maintien de l'ordre, il tabasse des gens publiquement dans le cadre du maintien de l'ordre et il refuse de porter son matricule, en fait. Donc c'est... Et il tabasse quelqu'un sur le fondement qu'on lui a demandé. Enfin, je veux dire, à qui on file des armes, en fait. La question revient souvent.
Sachant par ailleurs que lui-même a invoqué la légitime défense et a expliqué que c'était évidemment le manifestant qui l'avait enquiquiné et que par ailleurs il recevait des jets de projectiles, etc., etc., etc. Et là, il y avait aussi pas mal de vidéos qui montraient qu'il n'y avait pas de jets de projectiles, que la manifestation était calme, ce qui a coupé un peu sous l'herbe sous le pied du parquet qui sinon s'apprêtait à... Ne pouvant pas dire que là, à cette manifestation-là, les choses avaient dérapé, la procureure est montée en généralité, a dit oui, ça n'a pas dérapé là, mais ça dérape habituellement.
Oui, c'est ça, c'est que malgré le fait qu'il y ait des vidéos qui prouvent, et il y a une autre affaire aussi très marquante, parce que le policier avait été acquitté dans une affaire de mutilation d'un syndicaliste suite à une manif en 2016. Oui, c'était ça, 2016. Alors que la vidéo... En fait, c'était un procès où c'était 3 jours de cour d'assises parce que la personne avait été mutilée à vie. Et donc... au début de procès, il y avait une vidéo. Il y a une vidéo très claire où on voit absolument tout. On voit le flic lancer une grenade en cloche sur une place de la République hyper calme, fin de manif, tranquille, les gens en train de discuter, mais en train de tous partir. Et donc, moi, c'est vrai que naïvement, je crois que c'est le plus vieux procès qu'il y a dedans, qui date de 2022. Et moi, je pense que c'était la première peut-être une des premières fois que j'allais à un procès de ce type. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant 3 jours? La vidéo, elle est tellement accablante que, il va y avoir les débats, on va dire, habituels, mais quel retournement de situation possible? Enfin, ça me paraissait... il s'est avéré que la défense a réussi à vraiment recréer un récit par-dessus la vidéo et faire oublier cette vidéo au jury et au magistrat, et le flic a été acquitté. Et comment il a réussi à recréer un autre récit, c'est que deuxième jour d'audience, l'avocat qui est Maître Liénard, un avocat très connu pour la défense des policiers et très convaincu par la défense des policiers aussi, hein, c'est l'avocat médiatique qu'on voit qui défend le flic qui a tué Naël et plein d'autres, il a fait venir à la barre plein de CRS. Et en fait, ça a duré de 10h jusqu'à 22h le soir. Enfin, vraiment, c'était vraiment du bourrage de crâne. On a entendu des flics venir à la barre se victimiser. Et ils n'étaient même pas présents forcément au moment des faits. Hein. Mais dire à quel point, en fait, ils étaient sous une pluie de projectiles. Mais plus que ça, c'était des pluies. Puis de pluies de projectiles, on passait à des pluies de cocktails Molotov. Et puis de cocktails Molotov. Enfin, et en fait, c'était toujours plus... Les mensonges étaient toujours plus gros. Et après, là, il y a une responsabilité aussi dans la tenue de l'audience. C'est-à-dire que la présidente d'audience, qui encadre le jury populaire, n'a jamais recadré le débat. Et ça, c'est la responsabilité pour moi du tribunal. C'est-à-dire qu'il y a eu des témoins. En plus, moi, j'avais des camarades qui étaient témoins de moralité parce qu'ils faisaient partie d'assauts de soutien aux mutilés par la police. Et eux sont venus en tant que témoins de moralité témoigner à la barre. Et dès qu'ils ont passé 5 minutes de parole, la présidente a dit « Ok, merci, vous n'êtes pas expert judiciaire, on a eu votre témoignage. » Enfin, c'est-à-dire que c'est dans le pouvoir des magistrats de pouvoir faire taire quelqu'un et lui dire « Bon, bah, c'est bon, vous avez parlé. Voilà, vous êtes témoin de moralité et vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas présent sur le moment. » On a... Et là, elle ne l'a pas fait, en tout cas, elle l'a fait pour ses camarades-là, et elle ne l'a pas fait pour tous les policiers qui venaient se plaindre à la barre et puis inventer. C'est-à-dire que jamais elle a recadré le débat en disant « Ok, un cocktail Molotov, où, quand, comment, est-ce qu'on peut le voir sur la vidéo ?» Il n'y a aucun projectile sur la vidéo. Le problème, c'est que la vidéo, on l'a vue le lundi matin, au début de l'audience, et on ne l'a plus jamais revue. Et donc est passée cette journée interminable, ce deuxième jour interminable où on a entendu rabâcher des discours et refaire... Et presque, en fait, si on n'arrivait pas avec un parti pris au début, moi, je connaissais la victime, je connaissais les témoins, et donc moi, mon parti était pris. Mais je me dis, si j'étais arrivée très naïvement, si je connaissais rien à la police, si je n'étais jamais allée en manifestation, si vraiment j'arrivais extrêmement objective, est-ce qu'effectivement ils n'auraient pas réussi à me recréer une nouvelle scène, une nouvelle vidéo? Et parce que je pense qu'au bout de 10 heures à entendre ce genre de truc, on se fait sa propre... voilà. Après, c'est une stratégie de la défense et la défense a le droit de faire ça. La responsabilité, elle est plutôt du côté des magistrats qui sont censés, eux, être impartiaux. Et la défense, elle est évidemment pas impartiale, comme la partie civile. Voilà. Mais par contre, la magistrature, la présidente a cette obligation d'impartialité. Et elle aurait dû couper le débat, en tout cas, ou le recadrer. Et comme la vidéo est pas repassée, finalement, on a oublié le truc. Et en fait, le mercredi soir... le délibéré est tombé et le flic a été acquitté, alors même que tout était accablant, qu'il n'avait pas l'autorisation de détenir cette grenade, qu'il l'a lancée en cloche. Tous les experts le l'ont étudié schématiquement, donc il l'a lancée de manière illégale, il l'a détenue de manière illégale, et il n'y avait aucune légitime défense au sens de nécessité, proportionnalité et immédiateté, donc voilà. Et il y a eu un acquittement là-dessus.
On voit dans pas mal des audiences là, que tu chroniques, qu'il y a pas mal de soutien dans la salle, il y a pas mal de soutien de policiers dans la salle, les salles sont souvent pleines, il y a pas mal de soutien du coup des collègues, mais aussi de la hiérarchie. Et on le voit beaucoup, notamment pour le procès du commissaire dans le cadre de la mort de Steve, où il y a toute la hiérarchie qui défile pour expliquer quel excellent professionnel c'était.
Ah ouais, et puis alors vraiment du plus haut, je sais plus les noms, mais on a eu le directeur de la police nationale. Et là, ce qui est intéressant, c'est que a été poursuivi dans l'affaire du commissaire Chassin, uniquement dans l'affaire de Steve qui est mort tué suite à une charge policière au-dessus de la Loire le soir de la fête de la musique en 2019. Et là, ce qui change aussi, à la différence de toutes les autres affaires que j'ai pu voir, c'est que là, on a quelqu'un de la hiérarchie qui a été poursuivi. On n'a pas les petits flics de terrain ultra-violents. Et là, pour le coup, il a eu le soutien de toute sa hiérarchie. Et il a été relaxé parce qu'effectivement, il n'était pas seul responsable. Il y avait toute une chaîne de commandement et aurait dû être poursuivi aussi. Même, en fait, sont venus aussi témoigner à la barre. Les flics étaient sur le quai Wilson et qui ont tiré, tasé. Et eux n'ont pas été poursuivis. Et donc, effectivement, je peux comprendre le raisonnement du tribunal en disant « Oui, mais du coup, soit on poursuit toute la chaîne, soit on... » Voilà. Mais donc, toute cette hiérarchie jusqu'au directeur de la police nationale sont venus parce que c'était le commissaire, mais se désolidarisent quand... alors, c'est marrant parce que... Enfin, c'est pas du tout marrant, mais... la dernière affaire qui date de septembre 2025, où c'est un flic qui a tué sa compagne, donc dans le cadre privé. Là, par contre, on n'a pas vu les syndicats de police. Évidemment, c'est une pomme pourrie. Ça n'existe pas. Alors, c'était quand même intéressant de voir quand même que tous les collègues étaient au courant, parce qu'en plus, ces deux ex-compagnes avaient déposé plainte. Donc, bon, là aussi, la responsabilité de la enfin, de la, même de toute de la, enfin, de tous ses collègues qui savaient que le mec tabassait ses conjointes depuis des années. Mais donc, dans certains cas, il y a les soutiens des syndicats. Dans d'autres, la hiérarchie, mais très rarement. Il faut quand même que la personne soit suffisamment importante. Et, mais par contre, effectivement, les syndicats, quand même, de Alliance, Police, enfin, elles sont quand même très souvent là. Ouais.
Et j'allais dire, ouais, même pour les infractions commises dans le cadre privé, ça fait quand même une différence que le prévenu soit un policier, notamment justement pour ça, pour quand la victime veut porter plainte. Parce qu'il y a le cas dramatique, tu dis que ses deux précédentes compagnes ont porté plainte. Alors oui et non, il y en a une, elle n'a pas pu. Parce qu'elle est arrivée, elle a essayé, et puis la personne en face lui a dit non, on ne prendra pas sa plainte en fait.
On ne prend pas la plainte d'un collègue, ou je ne sais plus comment il a répondu. Et oui, bah, c'est ça, parce qu'en fait la chaîne pénale, elle commence, qui prend les plaintes en fait, ben, c'est les policiers. Donc en fait, comment vous allez porter plainte à des policiers? Alors il y a un autre recours qui est peu connu, c'est qu'on peut envoyer une plainte par courrier au procureur, ce qui permet de déposer plainte sans passer par la police. Franchement, c'est quand même un bon truc à savoir quand on n'a pas envie d'être confronté à la police. Après, ça pose d'autres questions. Je sais pas, le traitement est quand même plus lent. Enfin, il faut envoyer des recommandés, il faut relancer le parquet. Et puis, alors moi, je sais qu'à Nantes, par exemple, je sais pas si c'est dans toutes les villes, mais si vous déposez pas plainte à la police et que vous déposez plainte par courrier recommandé, donc clairement la plainte officiellement est déposée, hein, mais vous avez pas le droit de prendre rendez-vous avec les UMJ. Donc l'unité médico-judiciaire, vous n'avez pas le droit à un rendez-vous mais, pour fixer des ITT. Ça m'est arrivé l'autre fois, je dis, bah, je comprends pas. Et on me dit, ah ben non, il faut déposer plainte à la police. Ah, donc il y a des privilèges. Enfin, dire qu'on... Alors ça, je ne sais même pas dans quel... Enfin, comment ça peut être possible, enfin, légalement, qu'il y ait deux chemins différents alors que quand même l'acte est similaire. En tout cas, effectivement, bah, comment on dépose plainte quand en fait on n'a pas d'autorité indépendante. Alors l'IGPN peut recevoir aussi certaines plaintes, mais il y a, enfin, il y a un vrai problème d'indépendance, en tout cas d'une autorité qui puisse réellement poursuivre la police. Même en fait que ce soit le parquet qui soit directement lié quand même dans leur mission au quotidien, qui soit en charge des poursuites, que le dépôt de plainte soit, enfin que la réception des plaintes soit faite par la police, alors qu'on les sait déjà pas compétents pour n'importe quel justiciable, donc enfin encore plus pour leurs collègues, quoi. C'est... On comprend évidemment pourquoi si peu d'affaires de violence ou d'infractions commises par la police plus largement ne sont pas poursuivies, quoi.
Et hors violence conjugale, la première affaire là, de ton livre, c'est la plainte aussi n'a pas été reçue. C'est, pour le coup, c'est hors service. Deux policiers qui sortent de boîte, ils zigzaguent sur la route en voiture. Le monsieur derrière fait un appel de phare. Le policier sort de sa voiture, sort le conducteur, le tabasse, explique que c'est l'effet tunnel et la légitime défense, repart.
Ouais. En abandonnant un mec qui venait de tabasser très gravement, délit de fuite. Enfin, voilà. En plus, je crois qu'il n'est pas venu tout de suite quand il a été convoqué parce qu'il ne savait pas trop s'il fallait venir. Puis, je disais qu'il allait bien finir. Voilà, enfin, c'est les flics, on ne tabasse pas à la porte à 6h du mat pour venir les chercher quand ils ne viennent pas à une convocation, quoi. Donc, il y a une certaine complaisance quand même. Hein.
Et c'était 5 ou 6 ans après les faits, très longtemps après les faits, justement parce qu'on n'avait pas pris sa plainte au commissariat et qu'il avait dû recourir au système que t'expliquais tout à l'heure.
Ouais, citation directe, je pense que c'était ça qu'il avait fait. Ouais.
Peut-être pour finir, avant de passer aux questions, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de comment ça se passe en audience, tes dessins, c'est-à-dire qu'est-ce que tu... J'imagine que tu fais pas tout comme ça en live, et les dessins, et les... Comment est-ce que tu fais? Voilà.
Du coup, c'est aussi pour ça que j'ai ramené les dessins originaux. Je sais pas si vous avez eu le temps d'y jeter un œil, mais en fait, moi, j'essaie de tout faire sur le moment. Quand j'ai pas forcément la place, c'est aussi pour ça que parfois je fais du noir et blanc parce que j'ai besoin de moins de crayons dans les mains. Donc c'est parfois plus pratique. Après, si j'ai un peu de place autour de moi ou même parfois dans certaines salles, il y a des bureaux. Donc à Nantes, là, par exemple, il y a un bureau pour les dessinateurs. Donc là, du coup, j'ai pu faire la couleur, mais je me tiens à tout faire directement. vraiment. J'écris au crayon de bois, je passe par-dessus. Parce que déjà, je passe énormément de temps. En fait, c'est quand même des journées qui sont très très longues. Et du coup, s'il y avait besoin aussi de les retravailler le soir. Déjà, parce que en fait, quand j'ai essayé de refaire des dessins, après, je me suis rendu compte qu'on perdait le. Bah oui, les dessins pouvaient peut-être être mieux, mais on perdait aussi tout ce qui représentait aussi de l'instant, en fait, le dessin sur le vif aussi, il représente un moment, enfin moi aussi, ma manière aussi de percevoir les scènes, parfois on sent peut-être aussi la colère, et c'est aussi ma manière de la canaliser aussi, parce que je pense qu'on est beaucoup à assister à ce genre de procès, à avoir très envie de crier ou de se lever ou de vraiment d'insulter tout le monde, quoi. Donc là, au moins, tout est mis, enfin voilà, ça permet de la prise de notes permet de se concentrer en tout cas sur voilà, inscrire les choses pour qu'elles puissent être racontées à l'extérieur. Et donc, voilà, du coup, c'est plein de feuilles. Là, je sais pas, il y a peut-être 70 dessins, peut-être, que j'avais fait en une semaine. Hein, après, en une journée, ça dépend. Et puis voilà.
On vient d'écouter Anna Piche nous présenter son dernier livre, « Sans foi ni loi, la police devant la justice ». Merci encore à elle pour cette rencontre. Et maintenant, Clément Hénor vont nous parler d'un procès au cours duquel deux surveillants pénitentiaires ont été jugés pour des violences commises sur des détenus de la prison de Seyss.
Alors, le 10 décembre 2025, on est allé assister à une matinée d'audience au tribunal correctionnel de Toulouse, au cours de laquelle étaient jugés deux surveillants pénitentiaires, tous les deux de la maison d'arrêt de Seyss, pour des violences commises sur des détenus. Il s'agissait de deux affaires différentes. Quand on est entré dans la salle, ce qui nous a frappé, c'est qu'il y avait plutôt beaucoup de monde. Et tout ce monde-là était groupé d'un côté de la salle. Et en fait, on a vite compris que tous ces gens étaient des collègues des prévenus, qui étaient venus en soutien, et ils n'avaient pas l'intention d'être discrets. Et donc, tout au long de l'audience, ils vont se manifester, mais ça, on y reviendra avec Clément. La première affaire, c'est un surveillant gradé qui est accusé d'avoir, dans un premier temps, frappé deux détenus dans le couloir devant leur cellule lors d'une opération de fouille de la cellule, et dans un deuxième temps, d'avoir giflé le troisième détenu de cette cellule dans une salle de fouille. Il y a donc trois victimes, mais le 10 décembre à l'audience, une seule est présente, l'homme qui a été agressé en salle de fouille. Depuis les événements, il est sorti de prison, il a porté plainte, contrairement aux deux autres victimes qui, elles, sont encore incarcérées à Seyss et qui n'ont pas voulu porter plainte. Le prévenu, lui, le surveillant, il reconnaît les agressions qui ont eu lieu devant la cellule. En même temps, ces agressions, elles ont été filmées et enregistrées par la vidéosurveillance de la prison. Les magistrats ont vu ces enregistrements et pendant toute l'audition du surveillant, ils vont s'appuyer dessus pour corroborer ou pas les déclarations du surveillant. Par contre, ce surveillant, il nie avoir frappé la troisième victime. Or, cette fois-ci, il n'y a pas de vidéosurveillance puisque les faits auraient eu lieu en salle de fouille. Donc, on a seulement la parole de l'ex-détenu, sa plainte et sa présence ce matin-là quand même au tribunal. À la fin de l'audience, le maton est reconnu coupable des deux premières agressions, celles qui ont été filmées donc, mais l'homme qui a porté plainte est débouté. Le surveillant est condamné à 4 mois de sursis simple, pas d'inscription au casier judiciaire, pas d'obligation de suivi. Et d'après les juges, cette condamnation, c'est un avertissement pour lui.
La deuxième affaire, elle concerne des faits de violence commises par un surveillant sur 5 détenus dans le secteur des parloirs, dans une zone qui est dépourvue de caméras parce qu'elle est dédiée aux fouilles corporelles. À chaque fois, l'incident débute par une suspicion de rentrée d'objets interdits, selon l'expression consacrée, suite à un parloir que les détenus viennent d'avoir. Cette affaire, elle est d'abord sortie grâce au témoignage d'un surveillant qui a quitté l'établissement depuis. Les premiers faits de violence ont eu lieu en septembre 2024, qui concernent 3 détenus qui dénoncent des coups à la tête et des étranglements. Ce surveillant écrit à sa hiérarchie pour faire remonter les incidents, et les détenus seront entendus dans la foulée. Mais il ne se passera d'abord rien pour l'agent mis en cause, à qui une demande d'explication est envoyée à 2 reprises par la direction, sans réponse de sa part. Et un quatrième fait de violence survient en novembre 2024. Un détenu décrit, lui, avoir été étranglé, sa tête tapée contre le sol. Il va porter plainte le 12 décembre, c'est le premier à le faire. Puis, En janvier 2025, un cinquième détenu est victime de coups violents. Lui, il est plaqué contre un mur, le surveillant lui tape la tête contre ce mur. La victime aura une plaie à l'arcade sourcilière et va porter plainte fin janvier. Mais le surveillant va rester en poste jusqu'en mai, date à laquelle il sera placé en garde à vue, puis sous contrôle judiciaire. Contrairement à la première affaire, le prévenu dément les violences qui lui sont imputées. Selon lui, les détenus se sont cognés la tête tout seuls ou alors déchirés un t-shirt tout seul. Tout juste reconnaît-il avoir le verbe haut et parler parfois un peu fort. Finalement, le surveillant est condamné à 24 mois de prison avec sursis, sans interdiction d'exercer son métier, ce qu'avait demandé d'ailleurs le procureur qui avait également requis 3 ans de prison avec sursis. Deux affaires donc qui sont différentes, mais ce qui nous a frappé, ce sont les similitudes. Dans les deux cas, on constate d'abord que les victimes de ces violences n'ont pour la plupart pas porté plainte. Elles témoignent toutes de la crainte des répercussions que pourrait avoir une telle démarche sur leur vie en prison. On parle par exemple de rétention de produits cantinés, suppression de promenades, de douches, de travail ou d'activités, etc. Dans la première affaire, par exemple, il y a 3 victimes, mais le seul qui porte plainte a fini sa peine. Et dans la seconde, 5 victimes au moins ont été identifiées. Sur ces 5, seulement 2 ont porté plainte. Et sur ces 2, une avait une avocate, ce qui est loin d'être le cas pour la majorité des détenus, et l'autre a été transférée dans un autre établissement pénitentiaire. Cette crainte, on la comprend quand on assiste à l'audience. Quand ils rentrent dans la salle, les détenus ont face à eux une bonne trentaine de surveillants de SEIS venus pour soutenir leurs collègues et qui vont réagir souvent et peu discrètement tout au long des débats, à base de soupirs, de rires, de soufflements. Une présence pas anodine pour les détenus puisque ce sont les surveillants qu'ils croisent tous les jours dans l'établissement. Donc sur les 3 détenus, 2 qui repartent à SEIS verront les surveillants le lendemain dans les coursives. Au-delà de ce soutien, c'est donc surtout une marque d'intimidation envoyée à la face des détenus par ce COP d'agents de la pénitentiaire.
Ces craintes de faire sortir l'histoire, de témoigner des violences qu'ils ont subies, le plaignant dans la première affaire l'a très bien expliqué au juge durant les quelques instants, parce que ça n'a pas duré très longtemps, où les juges lui ont donné la parole. Il explique qu'au moment où il a été frappé, il lui restait seulement quelques semaines de détention. Et donc, il voulait surtout pas risquer d'avoir des problèmes. Il voulait qu'on l'oublie jusqu'au jour de sa libération. Et c'est pour ça qu'il n'a pas parlé de l'agression à ce moment-là, ce que le juge va lui reprocher lors de l'audience. Et il a juste raconté ce qui s'était passé à sa mère quand il l'a vue pendant un parloir. Et c'est justement sa mère qui, indirectement, est à l'origine de l'audience d'aujourd'hui, puisque c'est elle qui a signalé ses violences à la direction de la prison. Et c'est à partir de ce moment-là qu'une enquête administrative a été ouverte. C'est à la suite de la dénonciation de la mère que les vidéosurveillances ont été portées à la connaissance de la justice. Et la victime, elle a préféré attendre sa sortie de prison pour porter plainte. Donc on voit, on comprend, il explique bien les raisons qui font qu'il n'a pas parlé tout de suite. Mais pourtant, la parole de cet homme n'est pas du tout crue par les juges. Durant son réquisitoire, le procureur explique: on ne comprend pas bien pourquoi vous portez plainte aujourd'hui et pourquoi vous n'avez rien dit à l'époque. Il souligne que c'est votre parole, celle du détenu, contre la sienne, la parole du surveillant. Il lui rappelle sa déposition au moment de l'enquête. Vous assuriez ne rien avoir subi de qui que ce soit. Et à supposer que vous vous plaigniez de violence, c'est votre parole contre celle d'un membre du personnel pénitentiaire, comme vous avez dû clamer votre innocence devant le tribunal quand vous avez été condamné. Donc bref, le juge sous-entend très clairement que parce que cet homme a été condamné un jour, il sera considéré toute sa vie comme un menteur pour la justice. D'ailleurs, ce n'est pas seulement un sous-entendu, puisque durant la deuxième audience, le procureur a carrément déclaré « on le sait, les détenus mentent ». Donc finalement, cette première affaire, elle donne l'impression que le maton a été en partie condamné exclusivement parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Il y a des vidéos, ces actes ont été filmés, donc c'était difficile de passer outre. Par contre, la parole seule d'un détenu qui porte plainte, qui vient au tribunal, zéro valeur, on ne le croit pas.
Ces deux affaires montrent aussi à quel point les détenus sont des sous-victimes aux yeux de la justice. Un élément éclairant par rapport à ça, ce sont les interrogatoires et les réquisitions du PROC, qui a rappelé que les détenus sont vulnérables, mais il a surtout fait une longue leçon de morale sur le rôle de la prison, de la justice, en disant notamment « ces comportements contaminent l'ensemble de la chaîne pénale et la discrédite ». Comme si finalement c'était l'image de la justice et de la prison qui était plus importante et qui passait avant les atteintes aux détenus. Des détenus dont la parole est très difficilement crue, on l'a vu précédemment. Dans les deux affaires, on a l'impression surtout que ce sont d'autres éléments que leur témoignage qui décident de la réalité des faits. et de la culpabilité des surveillants. Dans la première affaire, c'est la vidéosurveillance, et dans la deuxième affaire, c'est le témoignage d'un autre surveillant qui dénonce les faits auprès de sa hiérarchie. Même dans le cas où la justice les croit, il faut voir comment ils sont traités. La première chose qui frappe, en effet, au début de la deuxième audience, c'est le contraste entre les cinq détenus, donc l'arrivée des cinq détenus victimes dans la salle. Étant au jour du procès toujours incarcérés, ils arrivent en fait dans le box des accusés, encadrés par des policiers. Et à l'inverse, le surveillant, lui, comparaissait libre, comme son collègue auparavant d'ailleurs, donc les deux sont à la barre. Plutôt que des victimes présumées, les trois personnes sont donc rappelées à leur statut quasi insurmontable, celui de détenu, donc d'une certaine manière d'éternel coupable. L'un des trois détenus qui est géorgien parlait pas bien français, mais ça, le tribunal s'en est rendu compte le jour même, et il s'est rendu compte le jour même d'ailleurs qu'il n'y avait pas d'interprète. Peu importe, l'audience s'est déroulée normalement, s'est déroulée quand même sans interprète, et la victime a tenté de se faire comprendre tant bien que mal. Par ailleurs, la salle dans laquelle les audiences ont débuté devait être libérée à 14h pour laisser la place aux comparutions immédiates. La nouvelle salle ne disposant pas de box pour les accusés et le tribunal n'ayant visiblement pas assez de policiers pour encadrer les détenus, ces derniers ont finalement pas pu assister à la fin du procès, notamment aux deux dernières plaidoiries, ce qui là non plus n'a pas eu l'air de déranger outre mesure le tribunal.
Et voilà, c'est la fin de notre émission et on se retrouve le mois prochain. Au revoir.
Comme le juge avait mal mangé, le premier prévenu fera un an de prison pour un porte-monnaie volé à une dame dans la rue qui sortait de sa maison. Pas de chance, pense l'avocat, on serait tombé lundi ou mardi dernier. Mon client, c'est sûr, s'en serait mieux tiré. Quand même un an, c'est un peu exagéré. Comme le juge avait mal mangé, le deuxième prévenu fera 2 ans de prison. À 20 ans, quelle idée d'emprunter la DS injection d'un haut fonctionnaire en fonction. Pas de chance, pense l'avocat. Monsieur le juge, j'aurais mieux digéré. Mon client, c'est sûr, s'en serait mieux tiré. Quand même 2 ans, c'est un peu exagéré. Comme le juge avait mal mangé, le troisième prévenu fera 4 ans de prison. On ne vole pas quand on est étranger, sans permis de séjour et sans qualification. Comme le juge était fatigué, le dernier prévenu ira dormir en prison. Il attendra pour être jugé quelques jours ou quelques mois. Question d'organisation. Tila da di 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 do da, do do da di do da, do do ti da di do da. Tila da di 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 do da, do do da di do da, do do ti da di do da. Tila da di 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 do da, do do da di do da, do do ti da di do da. Da-da-di-di-di-da-da, do-do-da-di-da-da, do-do-di-da-di-da-da.